Les colloques du Collège de France.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir et l'honneur de présider au débat de cette seconde session de la matinée. Et donc, notre premier intervenant pour cette deuxième session est Zépidée Kahiri, que j'appelle maintenant, si elle veut bien venir, merci, à la tribune, collaboratrice au Collège de France, qui va nous parler de la cour royale égyptienne à l'époque saïte.
Bonjour. Je remercie tout d'abord professeur Laurent Coulon pour l'organisation de ce colloque et pour m'avoir invité à y participer. Comme cela a été évoqué précédemment, les travaux de Norbert Elias ont jeté les bases de l'analyse des sociétés de cour et demeurent une référence incontournable pour comprendre la complexité des institutions palatines. Au-delà de sa fonction dans la gestion de l'État, la cour constitue, selon Elias, non seulement le lieu de résidence du souverain, mais aussi un instrument de régulation sociale et de consolidation du pouvoir. Le roi y exerce sa domination par le biais de l'étiquette ou de règles cérémonielles qui organisent la vie quotidienne de la cour et structurent les interactions entre le roi et ses courtisans. L'approche éliasienne a été enrichie par diverses études critiques, comme celle de Yeroen Dundam ou d'Emmanuel Oura-Ladurie, qui ont approfondi l'analyse des mécanismes sociaux de la Cour, ainsi que par des nouvelles méthodes, comme celle d'Alios Winterling, inspirée du concept d'idéal type de Max Weber, qui mettent davantage en lumière le rôle des courtisans dans la dynamique collective constituant la Cour autour du roi. Ces analyses offrent à l'historien des modèles types qui peuvent être applicables à toute société de cour où le souverain domine un espace clos, hiérarchisé et codifié. Tout en restant proche de la réalité des sources égyptiennes, le recours à ces outils comparatifs dans l'exploitation des données pharaoniques a considérablement élargi notre réflexion sur les mécanismes de la cour égyptienne aux époques classiques, sujet qui a été abordé en détail par professeur Coulon pendant ces deux derniers cycles de cours au Collège de France. Et c'est dans cette même démarche que nous tentons de proposer ici un aperçu général du fonctionnement de la cour royale sous la 26e dynastie, tout en restant bien entendu consciente des difficultés inhérentes à un tel sujet, liées notamment à la rareté et aussi à la répartition inégale des sources qui peuvent informer directement sur la vie de cour à cette période. Pour évoquer rapidement les principales sources pour l'étude de la cour royale saïde, il faut dire que, faute de vestiges architecturaux ou iconographiques significatifs sur la réalité physique des principales résidences des rois saïdes, a priori à Saïs et à Memphis, l'étude de la cour à cette époque est principalement tributaire des sources textuelles. En l'absence de tout annal officiel ou archive en lien avec la vie palatine, les données dont on dispose sont essentiellement issues des monuments de dignitaires rattachés à la cour, surtout leur statut de temple, et donc les inscriptions qui sont inscrites sur ces monuments. Ce sont les titulatures de ces personnages ou bien les formules narratives ou élogieuses attestées dans leurs inscriptions qui doivent être examinées en priorité pour une étude sur la cour. Les inscriptions royales saïdes, les onomastiques d'époque tardive et de nombreuses sources littéraires ou narratives démotiques, comme par exemple les événements relatés dans la chronique de Pétéisé ou le fameux papyrus Relance 9, complètent ce corpus en éclairant certains aspects des fonctions officielles de la cour. Les récits d'auteurs grecs et certaines sources archéologiques antérieures ou postérieures à la 26e dynastie apportent en parallèle des informations complémentaires sur la vie palatine saïte, permettant d'appréhender surtout la continuité et aussi certaines évolutions des pratiques à travers les siècles. Abordée comme une entité sociale ou une société au sein de l'État, la cour saïde doit avant tout être comprise comme la maison du roi, c'est-à-dire l'espace où s'organise la vie privée et les activités quotidiennes et officielles du souverain. Outre l'appellation « chez nous », qui correspond de façon générale à la capitale ou la résidence officielle, la maison du roi est le plus souvent mentionnée dans nos sources par les termes « à Arrête », en renvoyant plutôt à un palais à la fois privé et cérémoniel, et le père Nessou, qui désigne plutôt un palais officiel, englobant l'ensemble des installations administratives et économiques. Mais bien entendu, il existe plusieurs autres termes dans nos sources pour nommer le palais du roi. En ce qui concerne la sphère privée de cette maison royale, nos sources révèlent un ensemble important de secteurs qui sont relatifs en premier lieu à la vie privée ou personnelle du souverain et de sa famille. Nous avons des informations notamment dans les titulatures sur les départements réservés à la famille du roi, en particulier l'existence d'un harem royal et de ses organes annexes consacrés à l'éducation des enfants royaux. La charge du chef du harem royal, connu dès l'Ancien Empire, est attestée tout au long de la dynastie, au moins chez trois officiers, dont deux sont associés aux activités relevant de l'éducation des enfants royaux, comme le célèbre précepteur Orira, ce qui montre que les services éducatifs à cette période pouvaient être aussi dépendants du harem. Ensuite, d'après le papyrus Reylands IX, le palais Saïd devait comprendre également un espace intime pour le roi, ici désigné par le terme kénéet, l'appartement privé ou la chambre à coucher, dont l'accès était strictement réservé uniquement à certaines connaissances proches du souverain. Les autres secteurs pouvant être attachés au palais privé cérémoniel sont ceux qui relèvent de la préparation et des soins du roi, avec en tête les activités liées au père d'Ouat ou la maison du matin. À l'époque Saïd, comme auparavant, le père d'Ouat semble regrouper à la fois les soins quotidiens et la préparation cérémonielle du roi. Le domaine est connu par divers titres à cette période, les titres général du type supervision ou des titres qui renvoient à des fonctions spécialisées en ce qui concerne les soins corporels, l'habillement, la parure, les régalias, ainsi qu'un service lié au trône. Il faut cependant préciser que l'implication de certains hauts fonctionnaires dont le champ d'activité se situait hors de la résidence indique que les charges du père d'Ouat, au-delà des soins quotidiens au sein du palais, pouvaient être liées aux grandes cérémonies officielles et avaient de ce fait un caractère ponctuel et réservé à des hautes personnalités. Un autre secteur important de la sphère privée de la résidence à l'époque Saïd est celui de la médecine palatine, qui est une fonction bien établie de la cour pharaonique depuis l'Ancien Empire. Les praticiens Saïd connus intervenaient soit dans une médecine générale, le corps des médecins Sounou, soit dans des traitements spécialisés, comme les dentistes, les spécialistes des maladies de l'oreille ou les oculistes, ces derniers ayant été attestés aussi dans le récit d'Hérodote. Parallèlement aux soins médicaux, la documentation atteste également la pratique des opérations magiques au profit de la santé royale. Le domaine intime du palais comprenait également les loisirs et les divertissements royaux, allant des performances musicales, que vous pouvez voir ici à travers les titres à l'écran, à la récitation des contes, tels que l'on trouve attestés dans certaines sources démotiques. Ensuite, l'accès au palais privé. Comme aux époques antérieures, l'accès au secteur privé du palais Saïd semble se distinguer par une terminologie spécifique, a priori route, antichambre ou portail, et jouer un rôle clé dans l'organisation de la maison du roi, assurant probablement la liaison entre les parties privées et officielles. Il est attesté dans nos sources par le titre de chef de l'antichambre du portail, Imirarut, connu depuis la fin de l'Ancien Empire, et d'après ce texte autobiographique d'Orira, lui-même affecté à cette charge importante du palais, ses officiers se rangeaient parmi les plus proches du souverain et connaissaient l'intimité du palais et pouvaient recevoir, traiter et transmettre les demandes des sujets au roi. Selon ce témoignage et de ce qu'on sait de ce titre dans le papyrus Reylands IX, l'importance du chef de l'antichambre ou du portail tenait probablement à son rôle d'intermédiaire en fait entre le souverain et ses subordonnés. Cela laisse entendre que, grâce à leur proximité avec le roi, ces hauts officiers du palais pouvaient influencer les relations sociales, voire les décisions à la cour, tout en restant dépourvus de réels pouvoirs politiques. En dehors des départements chargés de la vie quotidienne du souverain et de sa famille, nos sources rapportent de nombreuses tâches palatines liées aux manifestations publiques du roi, couvrant sa sécurité, l'assistance à ses fonctions officielles, ainsi que ses besoins en matière d'alimentation et de produits de luxe. La sécurité du roi Saïd et de son palais relevait des gardes palatins. Deux principaux groupes pouvaient attester ici, comme les gardes rapprochés, les Kher Bresnesou, qui étaient chargés de la protection individuelle du souverain, ou encore les gardes du type Mehib, qui semblent plutôt être en lien avec la surveillance générale de la maison du roi et éventuellement la protection du roi lors de ses déplacements. Ensuite, l'organisation des audiences et des conseils constitue une activité majeure du palais, illustrant en même temps le fonctionnement collaboratif de la cour malgré la centralité du pharaon. Les sources pharaoniques montrent que ces audiences, les sources prosopographiques, excusez-moi, montrent que ces audiences pouvaient être individuelles ou collectives selon les objectifs visés. L'existence des conseils privés sous les saïds se déduit des titulatures des hauts fonctionnaires par la formule typique auquel le roi parle en privé, soulignant le caractère exclusif de ses rencontres avec le roi. Les officiers portant cette épithète appartiennent à des domaines variés, qu'ils soient issus du clergé, de l'armée ou de la sphère palatine. L'exclusivité des entretiens avec le roi peut être également signalée par d'autres compléments dans les titulatures, sans que la finalité de ces rencontres y soit toujours précisée. Dans certains cas seulement, un lien avec la transmission de renseignements émerge, comme par exemple ici dans le texte de la statue Richemont de Saint-Ptuthefnard, où l'entrevue semble être liée à l'accès aux affaires confidentielles et aussi à la diffusion des instructions. La tenue des conseils officiels au palais Saïd nous est connue notamment par les inscriptions de la statue du général Jetta Yevhar sous le règne de Psamétik Ier. On voit que dans ce texte, il est question du grand conseil, CHA, ou le conseil des nobles, CNZRU. Il s'agit en fait d'un conseil de cour présidé par le roi, dont le déroulement transparaît également dans les titulatures d'autres hauts dignitaires et qui sont encore d'horizons professionnels variés. On retrouve des parallèles dans certaines sources démotiques dans lesquelles la volonté du souverain est également partagée avec ses officiers dans ce type de conseil. Ces caractéristiques correspondent en effet au concept de Conix Novello déjà présent au Moyen-Empire, évoquant les séances officielles à la cour auxquelles assistent le roi et ses conseillers. La poursuite de cette tradition sous les saïds se reflète aussi dans d'autres textes connus, comme par exemple celui de la statue du prophète d'Amon Ben Tehor, ou encore le texte de la stèle dite d'Éléphantine d'Amasis, où le roi expose ses plans à ses hauts fonctionnaires au sein de son palais. Enfin, les conseils collectifs à cette période avaient des finalités multiples. Ça pouvait être des stratégies militaires, les projets de gestion de pays, ou même les ordonnances relatives à la maison du roi. L'analyse des domaines exécutifs du palais officiel révèle que le roi Saïd pouvait disposer aussi d'une chancellerie impliquant les messagers et les héros royaux et peut-être aussi des interprètes pour les communications externes et les échanges diplomatiques de la cour. On identifie également la présence des secrétaires royaux, confirmant la continuité à cette période d'un service épistolaire chargé des archives et de la correspondance du roi. Dans la documentation de Saïd, deux types d'activités au moins peuvent être liées aux préparations culinaires à la maison royale, la production et le stockage des aliments, ainsi que le service de la table impliquant les échansons royaux et les serviteurs chargés de l'alimentation, que vous pouvez voir ici à travers les titres d'Arbès. Certaines sources éclairent l'aspect protocolaire de la prise des repas royaux. Par exemple, ici, dans ce passage du conte du roi Amasis et du batelier, on voit que les courtisans ne participaient pas, a priori, ne participaient pas directement aux repas royaux. En tout cas, on voit qu'ils se contentaient de suivre le roi et son entourage jusqu'au lieu du repas. Ce qui suggère que les pharaons saïds pouvaient manger essentiellement en compagnie de la famille royale. D'autres indices semblent montrer que dans la pratique quotidienne, l'étiquette de la cour Saïd permettait à d'autres commensaux extérieurs à la famille royale de manger à la table du roi, privilège toutefois réservé aux plus proches sujets résidant le palais, comme précisé ici dans ce texte de la statue d'Orira, où le personnage y précise qu'il a mangé et qu'il a bu auprès du roi chaque jour dans l'intimité du palais. Pour finir avec les secteurs du palais officiel en lien avec le roi, les sources dont on dispose informent sur la fabrication et la conservation de certains biens précieux à l'usage de la maison royale, dont on peut citer le tissage et l'orfèvrerie. Même si les limites de la documentation saïde ne permettent pas une analyse architecturale, la répartition des titres palatins invite à considérer la dimension spatiale dans le fonctionnement interne de la maison royale à la 26e dynastie. À la lumière des éléments présentés, l'organisation de la cour semble répondre en effet aux besoins et activités du pharaon, combinant sa vie quotidienne et ses actions publiques comme maître du palais et de l'État. Le modèle saïd, marqué en quelque sorte par une bipartition entre les deux sphères privées et officielles, rappelle l'organisation de l'espace curial aux époques antérieures, connue par exemple par le papyrus Boulak XVIII ou par le texte des devoirs du vizir, excepté bien entendu la disparition du vizirat de la hiérarchie de la cour. Donc voici l'organigramme que l'on peut établir de la cour saïd ici en version détaillée à partir de la plupart des titres que l'on vient de voir et en version plus synthétique avec les principaux domaines repérés. Dans ce schéma, bien entendu hypothétique, la plupart des services exécutifs du palais officiel nécessitent une communication avec la partie interne. Cependant, les modalités de cette passerelle entre les deux domaines restent difficiles à évaluer. Les seuls éléments déterminants concernent le statut des officiers et le degré de leur proximité avec la personne royale. La seconde partie de cette présentation examine les fonctions centrales de la cour en tant que pivot de l'équilibre social entre le souverain saïd et les élites. Au-delà de sa fonction dans la vie quotidienne et l'administration du royaume, la cour pharaonique est une institution sociale organisée autour du roi, dont le rang, le pouvoir et la richesse structurent toutes les relations et les hiérarchies. Ce système repose sur deux axes, l'intérêt du souverain et les services qui lui sont rendus, ainsi que la reconnaissance des officiers pour leur action au profit de la couronne. Comme l'a montré Heike Gucksch dans son étude de référence Königsdienst, cette interdépendance se traduit par un réseau de relations fondées sur les faveurs, les hessut, où la rareté des promotions régule les rapports sociaux et la répartition du pouvoir. Les distinctions à la cour saïd se manifestent, comme auparavant, par des marques honorifiques, mais aussi par des promotions matérielles. Le statut des favoris saïds bénéficiant de ces distinctions était souvent indiqué par des formules traditionnelles telles que Hessi, Loué ou Imahu du roi, soulignant les honneurs conférés par le pouvoir royal. La gratification immatérielle ou honorifique constitue l'une des principales formes de ces distinctions. Nous verrons que dans ce cadre, la cour saïd, comme aux époques antérieures, définissait subtilement la hiérarchie par des rangs et aussi par leurs manifestations symboliques. Le rang de cour, non nécessairement lié à la naissance à cette période, se lie à travers les désignations auliques, les nominations à des postes clés et la proximité avec la personne royale. En ce qui concerne les attributs oliques, les titres de rang n'impliquant aucun exercice effectif fonctionnent surtout comme des marques de statut et déterminent la position sociale de leur détenteur. À l'époque saïde, les termes employés pour indiquer le rang d'un officier reprennent ceux connus depuis l'Ancien Empire. On distingue deux groupes de titres. D'abord, les titres qu'on peut considérer comme communs et largement répandus parmi les fonctionnaires proches de la cour. Ensuite, certains titres de rang que l'on peut considérer comme réservés, en tout cas restreints, qui semblent être attachés uniquement à certaines catégories privilégiées de l'entourage royal, à savoir les connus du roi, les compagnons du roi et peut-être aussi les pas les directeurs du palais. La distinction professionnelle des officiers saïds dans le système des faveurs pouvait être décrite par diverses locutions dans leurs inscriptions qui renvoient toutes à la même réalité de l'évolution dans la carrière. L'obtention d'une promotion professionnelle n'était d'ailleurs pas un événement rare et unique dans la carrière des fonctionnaires. Saïds, le cumul des postes et la multitude des missions exercées en sont des indices évidents. Un des meilleurs exemples sur le caractère répétitif des mutations professionnelles serait cette inscription très connue de Nesnaïsout, où le personnage déclare avoir été à 9 reprises l'objet d'une promotion professionnelle par Psamétique Ier. Dans ce cadre des distinctions symboliques ou immatérielles à la cour Saïd, on reconnaît quelques formes spécifiques de faveur royale. On peut, par exemple, évoquer la mention du nom royal sur les monuments de particuliers, comme évoqué clairement ici dans ce texte d'Orira, où il est question de la gravure du nom du roi sur les statues du personnage. Dans ce cas, on pense bien entendu à la gravure des cartouches royaux sur les épaules ou les bras des statues de temple, très en vogue entre le règne d'Obsamtik Ier et celui d'Apries. On peut aussi mentionner, par le même texte, l'emplacement privilégié des monuments de particuliers dans les temples. Ce texte, ici, précise que les rois saïdes accordaient aux grands dignitaires le privilège d'ériger leurs monuments privés dans les temples qui abritaient les édifices du roi régnant. Sous cette catégorie de faveurs spécifiques, on pourrait encore rappeler le cas des surnoms ou des beaux noms basilophores construits à partir des noms royaux et répandus à partir du règne d'Obsamtik II. L'octroi de récompenses, des récompenses matérielles aux dignitaires est une pratique bien répandue de la cour égyptienne. Les récompenses à toute époque prenaient la forme d'objets de valeur qui avaient un rôle social dans le fonctionnement de la cour. Pour l'époque saïd, il est possible de distinguer au moins trois grands types d'objets offerts en guise de récompense, même s'il y en avait bien entendu certainement d'autres. D'abord, les statues de temple. Dans le corpus Saïd, c'est notamment l'une des statues du grand prêtre d'Héliopolis, Oruja, qui nous informe sur la perpétuation sous les Saïds, et ce dès le règne d'Obsamtik Ier, de la coutume pharaonique de donation de statues ou d'un ensemble de statues, comme c'est le cas ici, au sujet méritant. De rares témoignages peuvent également renseigner sur la continuité de la pratique de donation de l'or de la récompense. D'après, par exemple, un passage du papyrus Reylands 9, le mérite professionnel d'un officier pouvait donner non seulement à une promotion de carrière, mais aussi à l'octroi d'objets prestigieux comme de l'or, ici Nebu, qui devrait correspondre à la même catégorie de l'or de la récompense traditionnelle. Un parallèle significatif peut être la statue du mercenaire grec Pédon, qui garde sur sa statue égyptienne, trouvée dans un sanctuaire à Priene, la mémoire d'une récompense en forme d'un bracelet en or que le personnage avait reçu à la cour égyptienne. Ce même passage du papyrus Reylands 9 nous informe que les sujets récompensés pouvaient recevoir non seulement de l'or, mais aussi un vêtement, un tissu en lin royal. Et l'attribution de ce type de bien au dignitaire saïd est par ailleurs à rapprocher d'une épithète souvent répétée chez le général Samtoutefnacht qui le qualifie comme celui qui est revêtu du linge pur royal. Et enfin, le caractère officiel de l'attribution des faveurs. De nombreuses sources iconographiques et écrites, surtout au Nouvel Empire, soulignent le caractère solennel et protocolaire de l'attribution des récompenses à la cour. Ces gratifications portaient un message politique et la cérémonie qui était publique devait mettre en scène la domination du roi et l'exemplarité des favoris. Pour l'époque saïde, les informations sont assez limitées, mais encore une fois, certaines sources, comme le papyrus Reylands 9, pourraient évoquer certains aspects du protocole respecté, comme par exemple ici l'indication de l'application de l'huile parfumée avant l'octroi des faveurs. Le système des faveurs contribuait à équilibrer les relations hiérarchiques à la cour pharaonique, mais il reposait sur le respect strict de l'étiquette. Les courtisans saïdes devaient aussi conformer leur conduite au protocole, ce que l'on peut déduire de certaines de leurs épithètes, qui révèlent justement l'importance du respect des codes de la cour, les téprèdes. Et en parallèle, on a aussi des informations dans textes plus tardifs, comme par exemple l'onomasticon du papyrus géographique de Tanis, ou certains papyri démotiques montrant que les courtisans devaient respecter des attitudes codifiées en présence du roi. On voit ici que, par exemple, les dignitaires devaient se disposer en deux rangées, à gauche, à droite et à gauche du pharaon, selon un protocole précis. Et ce sujet, je pense que sera développé par M. Kouak tout à l'heure. Tout au long de la dynastie Saïd, les modes de distinction ont pu varier en fonction des nécessités et des politiques propres à chaque règne. Les faveurs royales conditionnaient l'ordre hiérarchique palatin et incitaient les officiers à se lancer dans la quête perpétuelle d'avantages. Chacune des gratifications incarnait une grande réussite et était porteuse de valeurs symboliques, non seulement au sein de la cour, mais aussi au-delà même de la résidence. C'est pourquoi, par exemple, l'importance de l'obtention de la faveur du roi, être dans la faveur du roi, se manifeste même dans les souhaits que les courtisans adressaient à leur divinité locale. Le dernier point aborde la cour Saïd comme l'ensemble de l'entourage du roi en s'interrogeant sur les profils des acteurs sociaux de la maison royale et leur position dans le réseau relationnel du palais. Les analyses socio-historiques effectuées sur les sociétés de cour anciennes ont bien montré que le statut de courtisan se distingue avant tout par les modalités de sa présence au sein de la cour. Selon cette approche développé notamment par Alius Winterling, deux grands cercles d'individus peuvent intervenir dans le cadre palatin, les membres permanents qui, de fait de leur responsabilité palatine, sont amenés à habiter la maison du roi et qui constituent la cour fermée, et les membres présents occasionnellement qui ne résident pas la cour mais qui la fréquentent régulièrement et qui forment la cour ouverte. Comme nous l'avons déjà constaté, l'implication simultanée de ces deux groupes est également fondamentale dans le système de communication en vigueur à la cour Saïd. Outre les officiers palatins, de nombreux fonctionnaires de l'administration, de l'armée et des membres du clergé rentraient en contact avec la cour et partageaient les mêmes principes de la maison du roi. La terminologie employée à l'époque Saïd pour désigner l'ensemble de ces catégories formant la cour du roi, indépendamment de leur rôle auprès du souverain, s'apparente largement à la phraseologie ancienne. C'est encore notamment le terme chénit entourage royal qui marque à cette période aussi l'appartenance au cadre social de la cour. En parallèle à ce cercle, d'autres expressions reviennent assez fréquemment dans le corpus pour déterminer la position des hauts officiers, comme les membres de la cour, comme par exemple les dignitaires sa, les chépés sous les nobles, plus particulièrement les amis, les sémérous, et aussi les officiers, les sérous et les grands ourous. Quelle que soit la terminologie adoptée, l'examen des épithètes et des formules dites autobiographiques des officiers nous permet de dégager certains critères d'accès au statut de courtisan et surtout d'avoir une idée de la figure idéalisée de l'homme de cour et par conséquent un archétype moral des classes dominantes de la société égyptienne à cette période. La conception de ce portrait de l'homme de cour à l'époque Saïd puise essentiellement, une fois encore, dans les traditions anciennes et pour vous présenter rapidement quelques aspects, on peut dire que la figure du courtisan modèle et sa supériorité apparaît dans la documentation tout d'abord par l'expression de la position de chaque individu vis-à-vis du roi. Parmi les spécificités évoquant cette position se trouve la soumission marquée par des qualifications qui concernent aussi bien le dévouement envers le roi que l'attachement à son enseignement. Ensuite, c'est la fiabilité rendue par des valeurs d'homme de confiance et qualité de favori intime, mais aussi par la possibilité d'avoir un accès au roi et à son palais. Parallèlement à la codification des rapports avec le roi, l'affirmation du pouvoir dans l'exercice de la fonction forme une autre caractéristique importante du profil du courtisan. Celle-ci peut prendre deux aspects dans les titulatures et les textes narratifs. Premièrement, la mise en avant des capacités d'action fondées sur l'éducation, les connaissances et les compétences, explicitées d'une part par la qualité de savant des officiers et d'autre part par les compétences dans ce qu'on appelle art de la parole. Et deuxièmement, il s'agit de la défense de la légitimité professionnelle et de l'influence politique à travers la valorisation du statut professionnel et la pertinence des fonctions exercées. Ensuite, position vis-à-vis d'autres membres de la cour. Les interactions entre les sujets dans l'espace fermé de la cour égyptienne sont, on a vu, conditionnées par le pouvoir central du roi. Et dans cet environnement, les rapports sociaux entre les courtisans se basent essentiellement sur la quête et la conservation des faveurs, ce qui donne lieu à des comportements spécifiques et suscite la rivalité, la compétition. Au-delà de l'autorité dans la fonction, la configuration de ces modes relationnels chez les membres de la cour Saïd se trouve marquée par deux grands traits, la volonté de représentation de soi et de sa position, en quelque sorte l'autoglorification, et ensuite par l'expression de la renommée de l'estime et de l'estime sociale. En complément du portrait moral du courtisan, les origines géographiques ou familiales des dignitaires fréquentant ou habitant la cour de la 26e dynastie peuvent apporter des informations sur leur identité. Une telle enquête peut être menée à travers notamment l'examen des sacerdoces locaux mentionnés dans les titulatures de ces dignitaires, la répartition de leurs monuments de temple, mais notamment en tenant en compte des indications accessibles dans leurs inscriptions sur les ascendants et les fonctions familiales de ces personnages. Nous ne pouvons pas détailler ici ces éléments, mais tous critères confondus, il ressort qu'excepté certains hauts officiers actifs dans des régions éloignées de la résidence, les membres de la maison royale saïd dans les deux corps de cour fermées et ouvertes semblent avoir été majoritairement originaires du nord et plus particulièrement de la région occidentale du delta. Bien entendu, il s'agit ici des personnages pour lesquels on peut en fait vérifier leurs origines familiales. Donc la région du delta occidental qui est la zone d'origine même de la dynastie Saïd. En ce qui concerne les modalités d'intégration ou d'accès des officiers à la cour, l'appartenance à une lignée prestigieuse, bien que présente au début de la dynastie, au moment de renforcement du pouvoir saïd à travers le pays, ne semble pas avoir été un critère absolu. Il semble qu'en parallèle aux descendants des familles cléricales ou civiles, de nombreux hommes nouveaux, du moins dans le paysage politique, aient pu, tout au long de la période, rentrer en contact avec la cour et, de ce fait, accéder aux plus hautes fonctions du palais ou de l'État. On peut donc considérer que les cohésions interfamiliales pouvaient être le plus souvent mises de côté au profit de la fidélité dynastique. Ce schéma peut d'ailleurs être comparé avec de nombreuses épithètes et surtout et tournures narratives qui sont certes souvent idéalisées, mais qui présentent le mérite et les compétences des courtisans comme étant à l'origine du succès et du prestige social acquis. Ce qui pourrait singulariser l'image des fidèles sujets des rois saïds, encore une fois, à travers leur relation de dépendance, service au trône et la position sociale obtenue au sein du système de la faveur royale. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr. Les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.